Juliette Nière, à propos de ce qui se passe, épisode 2, le musée de Damas, 2019-2020.
Je m'appelle Juliette Nière et pour l'exposition 100% sortie d'école, je présente une vidéo qui est l'épisode 2 d'un cycle de performance qui s'appelle « À propos de ce qui se passe ». On manipule des objets en racontant une histoire. Il se trouve que cette histoire, c'est une histoire qui m'a été commandée, entre guillemets, par une commissaire indépendante qui s'appelle Mathilde Layoub et qui travaille sur le musée de Damas et qui m'a demandé de raconter via des objets et des images manipulées l'histoire de la construction de ce musée.
Si l'on devait reprendre à zéro, littéralement à zéro, voilà comme ça devrait commencer. Une dette moins zéro est une dette.
Ana souri. Lama kent zghir, kent fekker enno Souria hiya el madina el zghira elli wladet fiya. W sirt akbar w Souria tkbar ma3i.
Ça m'était difficile de la raconter en franco-français, enfin seule. Et donc j'ai moi-même invité Bassem Saloum, qui est journaliste à la radio et qui est syrien, à raconter comme un dialogue franco-arabe ce récit qui commence en 1936, en fait, au moment où il y a un mandat français en Syrie. Et donc c'est voilà, cette histoire-là qui arrive, qu'on emmène jusqu'à 2012. J'avais un peu un dilemme parce que je ne me sentais pas complètement légitime à parler de cette histoire-là, même si en tant que Française, j'apprenais une partie un peu sombre de l'histoire française et que je pensais que c'était important que je la raconte aussi. Mais effectivement, moi, j'ai, avec la Syrie, j'avais une relation que médiatique, entre guillemets, et c'est ce que je raconte un peu dans l'introduction, c'est que mon premier souvenir de la Syrie, c'est une carte postale reçue chez mes parents et qu'après, c'est devenu assez régulièrement, malheureusement, des images... qui n'étaient plus des images de cartes postales. Alors, les antiquités qu'on voit manipulées pendant la vidéo, c'est... Elles sont toutes au musée de Damas, en fait. C'est des œuvres qui ont directement été photocopiées et reproduites depuis le catalogue de 1969. Il y a aussi des boîtes qui sont en fait à l'image du plan du musée qu'on trouve aussi dans la préface de ce catalogue. Et il y a aussi des choses un peu glanées à droite à gauche. Il y a parfois des silhouettes juste découpées. Il y a parfois des cartes avec des mots. Ça m'intéresse en tant que graphiste, parce que c'est ce que je fais au départ, d'imaginer des systèmes de signes où, au lieu qu'il y ait une espèce de lien graphique très normé, comme un alphabet ou un système de pictogrammes, ici, c'est un système de signes hétéroclite et un peu composite, quoi. Effectivement, la question principale aussi de ce projet, c'est est-ce que graphiquement, on peut accompagner l'oralité, en fait ? Et c'est vrai que, en tout cas, ça m'amuse d'imaginer ces récits comme des collages et voir comme des jouets, en fait. Effectivement, dans la vidéo, on s'en rend peut-être un peu moins compte, mais il y a aussi, enfin, ces objets ont plein de matérialités différentes. Et il y a des objets qui se plient, il y en a qui se froissent, il y en a qui se tordent, il y en a qui sont beaucoup plus lourds. Et quand on les manipule, en fait, on s'amuse aussi de ces différentes matérialités. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce dispositif de performance qu'on ne voit pas du coup dans la vidéo, c'est qu'on nous voit simultanément manipuler les objets et ce qui est filmé sur la table est rediffusé en direct sur un écran en même temps. Et du coup, on a un peu deux points de vue. Et ce que j'aime bien dans ce dispositif qui est assez simple, enfin, qu'on a déjà vu dans plusieurs performances, c'est que... les images qu'on voit révèlent leur propre fabrication, entre guillemets. Et du coup, il n'y a plus aucun effet spéciaux, en fait. Et pour moi, ça évoque des théâtres de marionnettes assez low cost, on va dire. Mais ça évoque aussi des vieilles techniques télévisuelles que je trouve assez marrantes et que j'aime bien, dont j'aime bien en faire la pastiche, en fait. là, je commence à me poser la question de est-ce que ces récits, en fait, pourraient pas avoir... pourrait pas exister sous multiples formats et en fait qui est à la fois des vidéos et à la fois des performances et que les deux se complètent. Je crois que c'est intéressant de le penser comme ça, surtout en ce moment.
Pendant ce temps, les chefs militaires font ce que de tout temps les chefs militaires font.
Ok, la batte.
Effectivement, il y a deux moments dans la vidéo où on raconte des relations un peu militaires, enfin des accords militaires entre d'abord entre des Français et des Anglais, puis entre un Syrien et un Français. À ce moment, on a décidé d'utiliser des gros masques qui deviennent, on ne sait pas trop si c'est des personnages. De bandes dessinées, des sculptures, il y a un jeu avec ça. Et à ce moment-là, en fait, on parle plus, mais c'est des sous-titres, un peu comme un film muet, qui raconte la suite du récit. Notamment sur la partie des accords, ça explique, c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert assez vite en me renseignant sur la construction du musée de Damas. Et il faut dire, je pense que ça tenait dans une ligne sur mes livres d'histoire au lycée, mais me la rappeler, ça m'a un peu choquée ou révoltée. Et en même temps, il y avait quelque chose d'un peu... j'avais envie de le tourner au ridicule, tellement ça me paraissait peut-être absurde de dessiner des frontières et de décider de... quels pays et quels pays vont exister. Effectivement, pour moi, dans la performance comme dans la vidéo, je pense quand même à cette image un peu parfois risible de généraux autour d'une carte qui sont en train de décider de comment on va faire la guerre avec des pions sur un plateau. Et effectivement, le dispositif et de la performance et de la vidéo d'objets manipulés à travers une carte raconte un peu cette absurdité. Il y a quelque chose de presque administratif en fait dans la gestion géopolitique du monde. Et on sait bien que une fois que ça se joue dans le réel, ça a plus du tout les mêmes dimensions, quoi.
Pierre Viennot, secrétaire d'État de Léon Blum. Et Hachem Al-Atassi, parlementaire syrien, amorce les accords d'indépendance de la Syrie.
عاد هاشم الأتاسي إلى دمشق مترافقا مع هتافات الجمهور بينما مجلس الشيوخ والبرلمان والمؤسسة العسكرية الاستعمارية والمتدينون الفرنسيون رفضوا قرارات حكومة بلوم.
Dans ce projet, il y a vraiment quand même une ambition de didactique visuelle et d'expliquer des choses. Du coup, je serais ravie de pouvoir la montrer à des lycéens, même si ce que je raconte, ça touche quand même à des questions ou des choses que je ne savais pas, en fait, et que j'avais besoin de raconter pour me les expliquer à moi-même, entre guillemets. On utilise de l'humour pour raconter des choses, mais il y a quand même cette ambition assez sérieuse, en fait, de raconter ce qui se passe ou ce qui s'est passé, en tout cas.
Depuis 5 ans maintenant, depuis la campagne de Suez, vous n'avez plus de relations diplomatiques avec la France. Est-ce que vous envisagez éventuellement de les reprendre?
Évidemment, il y a certaines questions concernant les conflits entre la France et les Arabes. Le jour où ces conflits seront résolus, je crois qu'il n'y aura pas de raison d'être pour que les relations ne reprennent entre la République arabe syrienne et la France.
Pour le coup, ces archives arrivent... elle ponctue le récit un peu comme aussi un collage audio, quoi. C'est vrai qu'on les a pris telles quelles, quoi. Et qu'elle parle, enfin, il y en a une notamment qui parle de la Syrie. Et d'ailleurs, c'est des Syriens qui parlent français dans l'archive. Du coup, on a décidé de les laisser telles quelles. On a vraiment travaillé à ce que les choses... à travailler les choses comme un dialogue, mais aussi à faire attention à qu'il n'y ait pas de maladresse et pas de malentendu. Et du coup, on a eu des longues conversations sur aussi nos cultures, notre rapport à la politique, à ce qu'on peut dire, à ce qu'on ne peut pas dire, notre rapport aux symboles, évidemment, parce qu'on pose la question des signes. Et typiquement, Bassem me disait... Non, mais là, par exemple, si tu parles de la naissance de l'islam, tu peux pas utiliser une figure humaine parce qu'en fait, c'est pas, ça sera pas, c'est, ça marchera pas. Et puis aussi plein de questions par rapport à l'histoire de son pays, évidemment. Et c'était évidemment, en fait, dans ce projet, il y a aussi, comme je te le disais, des questions d'oralité. Et des questions de langue et de qu'est-ce que ça dit d'utiliser tel mot ou telle expression et pourquoi pas une autre, etc. Et donc là, en fait, il y a vraiment un jeu qui se crée avec les sous-titres parce qu'il se trouve qu'il y a des moments où ce que Bassem y raconte en arabe n'est pas tout à fait la traduction française. Et c'est des subtilités que, à moins qu'on soit bilingue, enfin, personne ne les comprendra, mais c'est des jeux qui nous ont amusés. Voilà, alors évidemment, après, moi, j'ai fait entière confiance à Bassem. C'est lui qui s'est emparé aussi du texte et qui a traduit à sa manière ce qu'il avait envie de raconter, quoi.
المتحف ليس مجرد مستودع يتم فيه حفظ التحف التي تركتها حضارات مفقودة. لديه أيضا مهمة كبيرة ليملأها من خلال تطور شعور الزائر بالجمال عن طريق تحفيز مشاعره وإثارة إعجابه.
C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Bassem, mais l'objectif de ce projet bilingue, c'était aussi qu'elle puisse être montrée en Syrie. Après, je sais que la situation est extrêmement compliquée, et ne serait-ce que, par exemple, dans le cadre de la journée d'études qu'organise Mathilde Ayoub, c'est poser des questions de « est-ce qu'on peut montrer les choses comme ça ?» mais a priori, ça a été bien reçu. On l'a montré déjà à un public syrien et ça a été bien reçu. Après, je pense que la diffuser en Syrie, ça serait encore d'autres questions, quoi. Donc la phrase, l'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire de vide, une histoire de chiffres et parfois une histoire de blé. Ça ne vient pas directement de la préface. Ça, c'est un peu l'histoire que j'ai amenée à croiser avec l'histoire de la construction du musée, parce qu'il se trouve que le récit qu'on raconte dans la vidéo commence avec l'invention du zéro et suit un long calcul qui arrive à 2012, là où le calcul se met à dégénérer un peu comme une allégorie du chaos. Il se trouve que par un peu un hasard étymologique, le zéro arabe, qui est donc une invention que les Arabes nous ont amenée, c'est ce qu'on raconte au début de la vidéo. Le zéro arabe, chiffre, signifiait le vide, mais a priori, il aurait aussi été utilisé pour le grain et le grain de blé. Et il se trouve que c'est une histoire de temps et une histoire d'argent, en fait, qu'on raconte dans cette performance. La préface du catalogue de ce musée, qui est l'édition de 1969, parce qu'il se trouve qu'il y a eu à peu près tous les 5 ans une nouvelle édition de ce catalogue. Et en fait, le texte d'introduction, qui est assez beau, c'est en même temps très historique, parce que ça raconte de manière très factuelle les différentes étapes de la construction de ce musée. Mais c'est quand même teinté d'amertume, en tout cas un peu de militantisme de la part d'Abdulhamid Derkal, qui était donc le directeur de ce musée à l'époque. On sent qu'il y a une histoire un peu douloureuse derrière. Et ça se finit sur un extrait qu'on lit pendant la vidéo, sur un texte beaucoup plus lyrique qui raconte l'importance de protéger les œuvres, pas tant juste pour les conserver, mais aussi pour continuer à élever les civilisations.
بلغة الفن وصوت قصة خلود إبداع النوع الإنساني وتخبرهم عن الحضارات القديمة.